L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Mickaël et Ramouspé. Bonjour Mickaël et Ramouspé.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'origine de l'ordre bénédictin. Alors, d'où viennent les bénédictins ?
Alors, c'est une très très longue histoire. Il faut remonter au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Alors, il se trouve que dans les premiers siècles, les chrétiens étaient persécutés. Alors, pour parler très simplement, étaient chrétiens ceux qui étaient vraiment motivés, ceux qui croyaient vraiment. Parce qu'on risquait gros d'être chrétien. Le christianisme était telle une religion qui contestait totalement l'ordre de l'époque, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'esclaves, c'est l'égalité entre tout le monde, les hommes et les femmes. Donc, et puis c'est un engagement, c'est-à-dire c'est un appel à la conversion. Et puis petit à petit, eh bien, le contexte a changé. Il y a eu notamment, avec Constantin, la religion chrétienne est devenue, pas encore la religion officielle, mais a été tolérée. Alors, de plus en plus de gens sont devenus chrétiens, mais voilà, parmi eux, certains étaient uniquement là pour avoir un poste, pour occuper dans la hiérarchie administrative impériale un poste intéressant. Alors, des chrétiens se sont un peu offusqués de cet état de fait. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça le être chrétien. Alors, ils se sont retirés dans le désert pour vivre, on dirait aujourd'hui, de façon radicale, la conversion à une conversion totale. Alors, ces pères du désert avaient un style de vie où ils renonçaient à beaucoup de choses. Alors, beaucoup vivaient en communauté, pas tous, et là, il y a eu un certain nombre de réussites, mais aussi un certain nombre d'excès. C'est-à-dire que une espèce de concours à celui qui sera le plus chrétien que l'autre, et qui ont amené des dérives. Bon. Et puis, l'Empire romain s'est effondré, en tout cas l'Empire romain d'Occident. À partir du 5e siècle. Il s'est effondré et au moment de cet effondrement, il y a une crise gigantesque. Bon, un peu du même ordre de ce que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il faut toutes les villes se vident, par exemple. Il y a vraiment un changement de civilisation. Et là, on attribue à Benoît de Nursie, donc une région d'Italie, le fait de regrouper un certain nombre de moines autour de lui pour vivre en communauté, et il va petit à petit élaborer une règle. Alors, il y avait d'autres règles qui existaient déjà, hein, mais enfin, cette règle aura un succès, un très très grand succès, parce que c'est une règle qui, on pourrait dire aujourd'hui, d'équilibre. Bon, on demande aux moines évidemment de prier, ora, bon, mais aussi de travailler. Il doit vivre de ce qu'il fait, il doit travailler. Et puis, on codifie un peu tout le déroulement de la journée, de façon très précise. Et il se trouve que ce rythme-là va apporter, c'est d'une règle tout en équilibre, c'est-à-dire sans excès, qui va avoir un grand succès, parce que, eh bien, il permet à la vie communautaire de s'exercer, de se déployer, tout en, je veux dire, en ne rêvant pas d'une nature humaine idéale, hein, même chrétienne. Les hommes sont les hommes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leur... également, il y a toutes les dérives possibles, hein, on le sait aujourd'hui. Et Saint-Benoît n'est pas un idéaliste, hein, pas du tout. Hein. Et comme tout ça, c'est prévu, eh bien, cette règle, la vie monastique va se déployer considérablement et va structurer la société. Même s'ils vont à l'écart, s'ils se mettent à l'écart du monde, ben, du coup, ils deviennent aussi des refuges. C'est un refuge pour cette société qui est en train de s'effondrer, de s'effriter. Alors, l'apogée de la vie monastique, c'est le Moyen-Âge, où nous avons des milliers de monastères. Alors, bénédictins, alors je ne rentre pas dans les détails, bénédictins, cisterciens, parce que là, il y a aussi des ramifications, des sensibilités un peu différentes, des remises en cause aussi, parce qu'à un moment donné, on dit le monastère de Cluny est devenu un monastère beaucoup trop riche, où les pères abbés sont devenus des grands princes. Des moines contestent cet état de fait, ils vont fonder d'autres monastères. Mais ça, c'est de tout temps. De tout temps, dans l'Église, nous avons ce mouvement qui apparaît constamment. Alors, par exemple, ici, pour parler du Pays Basque, hein, alors ici, du côté du Pays Basque Nord, à ma connaissance, il n'y a pas de monastère bénédictin de cette époque-là. Par contre, en Navarre, il y en a beaucoup. En Navarre, par exemple, Leyde, c'est 950. La Oliba, 1134, Irantzou 1176, Irache, alors lui c'est 958. Donc en Navarre, nous avons conservé dans leur jus, je dirais, ces monastères-là. Bon. Et les monastères aussi auront un rôle économique considérable dans l'agriculture, mais aussi dans les techniques, dans la maîtrise, par exemple, des techniques hydrauliques, qui vont faire que ces monastères vont devenir des centres un peu de progrès. Je ne parle pas du savoir, des parchemins, enfin de l'écriture, hein, j'en parle pas, mais ça va évidemment de soi. Et puis à partir du XIIIe siècle, l'Europe commence à changer, l'Occident commence à changer. Les villes apparaissent, ou réapparaissent, on va dire, et apparaissent également de nouveaux besoins et de nouveaux ordres religieux. Par exemple, les franciscains à Assise, les dominicains, et qui vont enrichir la vie religieuse en Occident. Bon. Et petit à petit, la vie bénédictine va s'appauvrir ou elle aura beaucoup moins de succès. Alors au XVIe siècle, par exemple, apparaît aussi une autre spiritualité, dû à l'époque des grandes découvertes, c'est par exemple les jésuites, avec Ignace de Loyola. Les bénédictins vont connaître une grande crise, et l'attrait de la vie bénédictine va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'affaiblir. Et c'est la Révolution française, pour parler d'ici, hein, qui aura le coup de grâce, c'est-à-dire que les bénédictins seront interdits, les monastères confisqués, et c'est fini de la vie bénédictine à la Révolution française en France. Notamment aussi parce que les philosophes des Lumières ont considéré que les moines, ça ne sert à rien. On veut bien qu'il y ait des ordres d'enseignement, ouais. Évidemment, qui s'occupait à l'époque des soins, des hôpitaux, c'était les religieux, les religieuses. Donc bon, on veut bien admettre qu'ils ont une utilité. Mais alors, la vie contemplative, alors voilà. Et puis, cette vie bénédictine qui aurait dû être complètement, je veux dire, annihilée et supprimée, voilà qu'au XIXe siècle, il y a un renouveau spirituel, notamment en France, considérable. Ça commence avec Chateaubriand et le génie du christianisme. Un mouvement et puis un dynamisme absolument incroyable tout au long du XIXe siècle, notamment en France. Et c'est là que des prêtres redécouvrent la vie bénédictine et se disent « mais la bénédictine, ce n'est pas du tout dépassé. Ça serait bien qu'on le reconnaisse et qu'on le refasse vivre en France. » Parmi ces personnes, il y a notamment Jean-Baptiste Muard, un prêtre, qui va travailler cette question-là. Il va travailler la règle de Saint-Benoît. Et il dit, mais la règle de Saint-Benoît, finalement, elle est très très moderne. Ça serait bien qu'on refasse partir ça. Et c'est ainsi que, il n'y a pas que lui, hein, mais il y a Solem aussi, mais voilà que ce Jean-Baptiste Muard va fonder un monastère dans le Morvan, dans la pierre qui vire. Et c'est de là, C'est de là que va partir ensuite, de là, et puis de Solesmes également, le renouveau de la vie bénédictine en France. Et c'est là que, à la pire qui vire, que deux prêtres basques, qui sont donc Bastre, qui est de Saint-Pé, et Dupérou, qui est de Cibourg, alors qu'ils sont aumôniers de l'armée, je simplifie, au cours de cette malheureuse campagne de 1870 où la Prusse va mettre une raclée terrible à la France, ils sont aumôniers là-bas dans l'Est, ils font un tour à la pierre qui vire pour voir de quoi il s'agissait, et ils disent « mais c'est exactement ça qu'il nous faut, il nous faut aussi fonder un monastère bénédictin au Pays Basque, en tout cas nous c'est notre désir ».
Et vous nous raconterez donc la fondation, la naissance de Belloc en 1875, la prochaine fois. Merci beaucoup, Michel Ramos-Pé.
Merci.